Bonjour mes bien-aimés. Vous permettez que je vous appelle mes bien-aimés. C'est comme cela que Paul appelait les frères et sœurs en Christ, hein, mes bien-aimés, parce que je vous aime. Je ne connais pas tout le monde ici, et je sais déjà que je vous aime au fond de mon cœur. C'est une grâce que Dieu met dans mon cœur de pouvoir aimer mon prochain comme cela. Voyez-vous ? Donc, je me réjouis parce que tout d'abord, c'est la première fois que je vous visite. Et c'est toujours une découverte et ça m'a fait beaucoup de bien ce matin, les chants. Ça a réjoui mon cœur, ça a réchauffé mon cœur et puis ça nous prépare aussi à ouvrir et méditer la parole. Tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été apporté, les musiciens ont une grande part dans la louange aussi, les prières qui ont fusé un peu à gauche, à droite, voilà, on se réjouit de cela. Je ne vous connais pas tous, quelques-uns seulement, très peu. Vous ne me connaissez pas, je vais me présenter. Donc je m'appelle Michel, j'habite à Thouin. Certains connaissent peut-être, mais historiquement nous sommes un peu liés, Thouin et Liège, puisque Thouin faisait partie de l'ancienne principauté de Liège. Au cas où vous ne le sauriez pas, ben voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc nous sommes un peu liés historiquement. Bien sûr, nous sommes liés par les liens fraternels au travers du sang de Jésus-Christ. L'APEB, Assemblée protestante évangélique, dont je fais partie, se situe à Montigny-le-Tilleul. Donc Montigny-le-Tilleul, c'est une commune au sud de Charleroi. Donc voilà, c'est une assemblée protestante évangélique qui fait partie de cette famille d'églises, cette union d'églises, qui est aussi propriétaire du camp de Genval, du Home Bethany, pour ceux qui connaissent. Alors j'ai un ministère d'anciens au travers dans cette assemblée. Mon épouse est avec moi, Laurence. Nous avons 4 enfants, 5 petits-enfants. On se réjouit d'ailleurs de les avoir. Et c'est beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, si j'ai rien oublié. Voilà, si vous avez des questions me concernant, on va rester la journée avec vous. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on restera avec vous et qu'on partagera ensemble. C'est toujours avec beaucoup de responsabilité que nous ouvrons la parole de Dieu. Toujours. Quand on se met à étudier la parole de Dieu, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est vaste! Quelle profondeur il y a dans cette parole, quelle parole vivante, on fait des découvertes, il y a des histoires fantastiques, merveilleuses, il y a des passages tristes, des passages où on se réjouit, des passages cruels, des passages plus doux, si je puis dire comme cela. Donc voilà, donc c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Mais tout est grâce, ça nous a été rappelé. D'ailleurs, c'était le thème de la convention, émerveillé par la grâce. Tout est un concentré de grâce dans la parole de Dieu. Même les passages les plus difficiles. Voyez-vous, donc, si Dieu m'utilise, je me dis parfois, Seigneur, tu m'utilises pour apporter la parole, j'ai aussi un ministère d'évangéliste. Donc, je dis, Seigneur, si tu m'utilises pour apporter la parole, moi qui étais quelqu'un de très timide, de très réservé, le Seigneur m'a transformé. Ça a été rappelé tout à l'heure. Le Seigneur transforme. Rien d'autre ne peut changer un cœur humain. Un léopard ne peut pas changer ses taches. Un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Mais Dieu, donc on ne peut pas changer un cœur. Mais Dieu change un cœur. Dieu transforme un cœur. Et il a transformé mon cœur. Et je me dis parfois, si Dieu a utilisé Abraham, un menteur, si Dieu a utilisé Moïse, un bègue, si Dieu a utilisé Jonas, un trouillard, disons les choses comme elles sont. Si Dieu a utilisé Amos, un berger. Si Dieu a utilisé Paul, un criminel. Et s'il a utilisé Pierre, hein, qui était un traître, en quelque sorte. Je dis qu'il peut m'utiliser moi aussi. Je dis qu'il peut nous utiliser nous aussi. Le Seigneur utilise les choses faibles de ce monde. Et je me sens bien faible parmi vous ce matin. Alors c'est avec beaucoup de responsabilité que j'apporte la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs. Ne regardez pas l'homme qui vous parle ce matin. Regardons à la parole de Dieu. Regardons à ce que le Seigneur a partagé. Parce que celui qui prêche, c'est lui le premier qui reçoit. C'est lui le premier qui reçoit. Je vous ai parlé de Pierre. Nous allons parler de Pierre. Il y a beaucoup de choses à dire sur Pierre. Pierre. Alors, je vais lire un texte avec vous, deux textes, dans Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, à partir du verset 36 jusqu'au verset 31. 26 jusqu'au verset 31. Marc 14, 26 à 31. Bon, vous connaissez le passage, je pense. Ce texte-là est connu. Nous allons voir le caractère de Pierre, sa personnalité. Pierre était un pêcheur, au propre comme au figuré, si je puis dire. Pierre était un pêcheur, un homme de la mer. Vous savez que le métier de marin, c'est pas le métier le plus simple. On entend souvent, notamment en France, des mouvements où les marins ne sont pas contents parce que bon, ils ont des difficultés. C'est un métier où ils prennent la mer parfois pendant plusieurs jours. Pierre, c'est un marin, c'est un homme de la mer, c'est un travailleur. On pourrait presque le comparer à des hommes qui ont travaillé au fond de la mine, des travailleurs de force, qui bravent la tempête, qui sont francs face aux difficultés. Voyez-vous, Pierre, c'est sa personnalité, c'est un homme comme cela. Alors, on va voir dans ce texte, à partir du verset 26 de Marc, chapitre 14, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. On se demande encore comment ils ont pu douter le jour de la résurrection. Parce qu'ici, il est clair. Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, voilà, cet homme, on va s'arrêter sur sa personnalité. Pierre, ce pêcheur, cet homme de la mer, ce travailleur de force. Pierre lui dit, et on peut imaginer la voix qu'il a pris, Pierre. Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Mais Pierre, reprenant plus forte, dit, fortement dit, mourir avec toi, Seigneur, je ne te renierai pas. Il est formel. Et tous, parce qu'il n'y a pas que Pierre, tous dirent la même chose. Et puis on passe au chapitre 14 et au verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vit une servante du souverain sacrificateur. Voyant Pierre se chauffer, elle le regarda et lui dit, « Mais toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans les vestibules, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là, mais il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus l'avait dite avant que le coq chante deux fois. « Tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Il pleurait. Je crois que c'est clair comme texte. Facile à comprendre, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez, en lisant ce texte, je me dis qu'il y a des réveils dans la vie. Il y a des prises de conscience qui sont brutales. C'est ce que Pierre va vivre ici, une prise de conscience brutale. Et je pensais tout simplement, vous connaissez l'histoire, aux frères de Joseph. Joseph, ses frères, leur conscience était éteinte. Et quand ils retournent en Égypte suite à la famine, ils vont se trouver face à Joseph, qui est devenu premier ministre d'Égypte. Ils ne reconnaissent pas, mais Joseph reconnaît ses frères. Et il ne manque pas de culot, on peut le dire. Ils vont dire simplement ceci, nous sommes des onédiants, hein. On retrouve ce texte dans le chapitre 42 du livre de la Genèse. Nous sommes des onédiants, dit le tira Joseph. Alors que Joseph, lui-même, se trouve face à ses frères et qu'il a été vendu, jeté dans une citerne. Et alors, Ruben, le frère aîné de Joseph, va avoir cette conscience qui va se réveiller. Et qu'est-ce qu'il va dire? Souvenez-vous, mes frères, quand Joseph était dans la citerne, il nous suppliait de le laisser libre. Mais vous, la conscience des frères de Joseph s'est réveillée. C'est un réveil de conscience brutal. Brutal. Dans le livre des Nombres, aussi dans la parole de Dieu, bien sûr, il y a un soi-disant prophète qui est assez mystérieux, nébuleux, il s'appelle Balaam, vous savez? Il bat son ânesse. Parce que l'ânesse prend un autre chemin que lui voudrait prendre. Il la bat une fois. Il la bat une deuxième fois. Et Dieu délie la langue de l'ânesse. Et je me dis que s'il a pu faire parler l'ânesse, il peut très bien me faire parler moi aussi. Voyez-vous? Mais il délie la langue de l'ânesse. Et à ce moment-là, Balaam prend conscience. Il prend conscience de sa situation. Il prend conscience qu'il est sur une mauvaise route. Dieu utilise des circonstances étranges parfois. Et même dans nos vies. Il a déjà utilisé des circonstances spéciales, bizarres, étranges, mystérieuses dans ma vie. À partir du moment où on le laisse agir, bien sûr. Il voit l'ange de l'Éternel, Balaam. Dieu se sert d'une ânesse muette et il la fait parler pour arrêter le prophète sur sa route. Jonas, il a fallu rêver. Hein. Jonas, il dormait au fond de la cale. Il était réveillé d'un seul coup. Il a apporté un message tout simple. Jonas, quand je l'appelle le trouillard, il avait peur d'aller à Ninive. Il avait peur d'annoncer qu'il fallait que Ninive se repente. Est-ce que nous le ferions, est-ce que je le ferais moi, d'aller dans notre ville et dire encore 40 jours et la ville sera détruite? Il faut du courage pour faire ça. Hein. On va vous prendre pour un fou. Hein. Jonas, on aurait pu le prendre pour un fou. Hein. Mais on l'a pris au sérieux. Malheureusement, un siècle après, Ninive retombe dans son travers. Mais on l'a pris au sérieux. Un message tout court, sans violence, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Il ne faut que ces paroles-là pour que Ninive se réveille. Dieu se sert d'un serviteur rebelle au travers de Jonas. Vous savez, dans l'Évangile, et ça je voudrais le lire avec vous, nous trouvons aussi un réveil brutal. Une conséquence dramatique, c'est dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Ça, je tiens à le lire quand même. Regardez l'accent que je vais mettre sur les « je », c'est-à-dire 6 fois le pronom personnel, et sur les adjectifs possessifs « mon » ou « mes ». Parce que c'est l'histoire d'un homme qui est très riche, qui a gagné beaucoup d'argent. Semblerait qu'on vit notre société aujourd'hui, que les riches veulent devenir de plus en plus riches, et que c'est une situation que on connaissait déjà à l'époque de Jésus. Alors Jésus explique ce texte, et il va dire au verset 15, à partir du verset 15, on va lire. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Le Seigneur enseigne, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Moi j'aime bien quand j'évangélise, et je fais une parenthèse, de dire toujours, nu tu es sorti du sein de ta mère, nu tu retourneras dans le sein de la terre. C'est un texte de l'Évangile, hein, ça. Un texte de la parole, ça. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, ils vivent comme s'ils allaient passer l'éternité sur la terre. Hein. Regardez autour de vous, vous allez voir. On ne pense pas à son éternité. On soigne son corps, mais on ne soigne pas son âme. Il suffit de sortir, aller dans les lieux, maintenant on fait de la course à pied, du vélo, du VTT. Vous allez voir, il y a plein de monde là. On soigne son corps. Mon but de soigner son âme. C'est ce que cet homme, il fait. Il soigne ses richesses, lui. Ah oui, il est fier. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, verset 17. Et il raisonnait en lui-même. L'orgueil qui est en lui. Hein. Que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte, tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est l'histoire du monde aujourd'hui, ça. C'est notre société. Mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ce sera? Il en était ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà un réveil brutal. À peine a-t-il fini sa phrase. À peine a-t-il fini sa phrase qu'il entend une voix qui lui dit, insensé. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, ça sera pour qui? Ça sera pour qui? Voyez-vous, ce que je voudrais mettre l'accent, tout simplement, en vous citant ces exemples, c'est de dire que parfois, le Seigneur réveille les consciences au travers d'un contretemps, au travers d'une situation inattendue, au travers d'un âne qui a parlé, au travers de la mort qui a frappé. Il réveille les consciences. Ne dit-on pas que c'est toujours quand il y a un enterrement que c'est la plus belle occasion pour évangéliser? Parce que les consciences sont interpellées. Et nous devons, en tant que responsables, interpeller les consciences. Je vous pourrais vous parler aussi de Samson. Samson, sa conscience a été éteinte. Il a écouté une femme. C'est pas mauvais en soi. Au contraire, parfois. Elles ont plus de feeling que nous. Mais il a écouté une femme. Samson a eu les yeux crevés. Pendant des semaines, il va réfléchir sur sa situation. Mais Dieu va lui redonner sa puissance. Dieu va lui redonner sa puissance. Donc, il va être rétabli dans sa force parce qu'il y a eu une repentance. Voici quelques éléments tout simples dont Dieu se sert pour parler aux hommes. Vous savez, Dieu, quand il parle, il ne faut pas s'attendre à avoir des grandes situations spectaculaires. Dieu parle au travers des éléments. Dieu parle au travers de la nature. Dieu parle au travers de la nature. Moi, je suis descendant d'une famille de bûcherons. Mon père était bûcheron, mon grand-père était bûcheron, c'était tous des bûcherons. Et il connaissait beaucoup de choses de la nature. Beaucoup de choses. La variété des arbres, les insectes, les oiseaux, tout ce qui était, toute la nature. Et il connaissait. Mais il nous a beaucoup parlé de ces choses et ça m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce qu'il me manque maintenant qu'il est parti? Parce qu'il m'apprenait des choses. Voyez-vous, et maintenant, il m'arrive parfois de m'arrêter, d'observer la nature, elle me dit, elle me parle. Elle parle de Dieu. Elle nous parle du Créateur, la nature. Mais je voudrais revenir au texte de Marc 14, verset 66. Marc 14, verset 66. Qu'est-ce qui est l'agent de Dieu ici? Je vous pose une question. Qu'est-ce que Dieu utilise pour réveiller la conscience de Pierre? Vous savez ce qu'il utilise? Un coq. Un coq. Alors, on a eu des poules à la maison, vous avez peut-être des poules chez vous. Excusez-moi, mais avec tout le respect que je lui dois, il n'y a rien de plus bête qu'une poule. Il n'y a rien de plus bête qu'une poule. D'ailleurs, elle a une toute petite tête, parce qu'elle a un tout petit cerveau. Mais qu'est-ce qu'elle est utile, la poule? Qu'est-ce qu'elle est utile? Mais Dieu se sert d'une poule, enfin d'un coq ici. Il ne pond pas des œufs, mais la poule, elle pond des œufs. Mais il se sert d'un coq pour parler à Pierre. Voyez-vous comme la parole de Dieu, quand on s'y arrête, comme elle est riche, dans les moindres détails, dans la moindre virgule, le moindre mot peut nous apporter quelque chose pour notre vie spirituelle. Dieu se sert d'un coq. Alors s'il se sert d'un coq, il peut très bien se servir de nous. Un animal très simple. Qu'a-t-il fait d'extraordinaire, ce coq? Je vous pose une question. Qu'a-t-il fait d'extraordinaire? Ce qu'il a... Il a simplement chanté. Il a chanté. Il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Ce pourquoi il a été créé, le coq. Le coq, il a été créé aussi parce qu'il chante. Et vous savez qu'un coq, quand il chante, il croit qu'il fait lever le soleil. Il croit qu'il fait lever le soleil. Et vous savez pourquoi? Mais moi, je ne sais pas. Je ne chante pas pour faire lever le soleil. Le cheval ne hennit pas. Le chien n'aboie pas. Mais le coq, il chante. Le matin, il chante. Dieu utilise des choses simples. Simples pour parler à nos cœurs. Pour réveiller une conscience. Pas des choses compliquées. C'est les hommes qui ont compliqué le salut au fil des siècles. Le salut, il est tout simple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est compliqué, ça. L'évangile est simple. Dieu utilise des choses simples, pas des choses compliquées. Ce que le coq a fait, il l'a fait tout simplement, sans grande importance. Il l'a fait ponctuellement, le coq. Parce qu'un coq, il est ponctuel. Non pas à l'heure, non pas à la minute, mais à la seconde. Alors quand on met en parallèle les deux textes que j'ai lus ce matin, quand Pierre dit « Seigneur, jusqu'à la mort, moi, jusqu'à la mort, je te suivrai partout. » Oups, stop, doucement, hein. De l'humilité. Hein. Beaucoup d'humilité dans le ministère. Beaucoup d'humilité en tant que chrétien. Donc, à la seconde même, le coq a chanté, comme Dieu l'avait dit, comme Jésus l'avait dit. Voyez-vous, je retire cinq choses dans ce texte. Bon. Cinq, vous savez que c'est le chiffre de la grâce. Cinq pains, deux poissons. Cinq, le chiffre de la grâce. Je retire cinq choses. Ce qui s'est passé chez Pierre, à ce moment-là, il y a eu la parole de Jésus, une chose. La sensibilité de Pierre, il avait quand même le cœur sensible, hein, tout en étant un homme travailleur de force, hein. Un pêcheur, hein, on se l'a dit. Hein. La parole de Jésus-Christ, la sensibilité de Pierre, l'onction du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Important, ça. Parce que je voudrais que le Saint-Esprit, maintenant, il descende sur cette salle, qu'il intervienne, qu'il souffle à nouveau comme à la Pentecôte, que les portes s'ouvrent, qu'un vent impétueux rentre, qu'il pénètre dans nos cœurs, qu'il ouvre nos cœurs à salut. Et si nous sommes chrétiens, qu'il nous fortifie et qu'il fasse de nous des ouvriers de paix. Des ouvriers qui annoncent l'évangile aujourd'hui. La parole de Jésus, la sensibilité de Pierre, l'action du Saint-Esprit, le chant du coq dans l'action. Oui, le chant du coq. Et puis le regard de Jésus. Le regard de Jésus sur Pierre. Jésus s'est retourné, il a regardé Pierre. Les femmes, elles maquillent leurs yeux. C'est très beau, c'est très joli, moi j'aime bien. Je dis toujours à mon épouse qu'il faut qu'elle le fasse. Mais les yeux ont une grande importance. Et vous ? Une grande importance. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, mon père, quand il me faisait des grands yeux, je savais ce que ça voulait dire. Vous savez, on peut faire des regards méchants, vous connaissez ça, des regards d'amour, hein, des regards doux, des regards tendres. On peut beaucoup de choses dans le regard. C'est drôle, hein? Mais les yeux ont quelque chose d'important. Mais le regard de Jésus à ce moment-là, c'est quoi? C'est pas un regard qui anéantit Pierre. C'est pas un regard qui l'écrase. La plus belle preuve, c'est que Pierre va se repentir. Il va pleurer amèrement sur son état de péché. Je fais une parenthèse hier. Pas plus tard qu'hier, nous avons une sœur de l'Assemblée qui est venue en pleurant. Une sœur de chez nous. Nous recevons beaucoup à la maison. On fait de la relation d'aide, de la cure d'âme dans l'Assemblée tout autour de nous. Sans prétention, avec beaucoup d'humilité. Elle est venue en pleurant. Parce qu'elle avait un péché à confesser. On a prié ensemble. Elle ne s'humilie pas devant nous. Devant moi, on s'humilie ensemble devant Dieu. C'est ça la repentance. On s'humilie devant Dieu. Elle a pardon de ses péchés. Elle est repartie pardonnée. Le poids de son péché est tombé. Pierre est sorti pour pleurer. Ce sont des larmes de repentance. Quelle différence avec Judas ? Judas qui est allé se pendre. Au lieu de se repentir sur ce qu'il avait fait, aurait-il obtenu le pardon? Oui, je le crois. Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu, sans doute. Ou en tout cas, c'était comme cela que ça devait se passer. Je n'en sais trop rien. Mais Pierre est sorti pour pleurer des larmes de repentance, des larmes salutaires. Ça vous est déjà jamais arrivé de pleurer? Moi si. Moi oui. Ça nous arrive. Parce que pleurer est un sentiment comme rire. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de nous. Et parfois, nous devons pleurer. Briser notre orgueil qui est en nous. Pierre a dû briser son orgueil. Il s'est souvenu de ses paroles, Pierre. Oh Seigneur, mais jusqu'à la mort. Il s'est souvenu de cela. Voyez-vous, mes bien-aimés, ce que nous avons fait ce matin, une prière, peut changer l'existence d'un homme, peut toucher le cœur d'un homme. Une prière. Jacques rappelait ce matin, quand il était jeune chrétien, qu'il avait entendu prier cette personne qui avait prié pour la première fois, il avait été touché, ça lui rappelait. le début de sa foi, moi aussi. Et c'est bien de pouvoir commencer à prier. Moi, au début de ma foi, quand j'étais dans la réunion de prière ou quand j'étais à l'église, fallait pas me demander de prier, hein. J'avais mes poils qui dressaient sur ma tête. J'avais peur. Timide. Mais le Seigneur a vaincu ma timidité. D'ailleurs, vous le voyez. Il a vaincu ma timidité. Une prière. Un chant. Un chant peut changer le cours d'existence d'un homme, hein. Vous savez ça? Il y a un chant qui, d'ailleurs, si vous avez ce livre qui s'appelle Ainsi sont nés nos vieux cantiques. Ainsi sont nés nos vieux cantiques. Ce sont tous des chants, comme Jacques a partagé tout à l'heure. Celui qui a écrit ce chant, oui, qui était dans la souffrance, parce qu'il a écrit ce chant. Un chant peut changer le cours de la vie d'un homme. Une parole peut changer. Un message. Un message peut changer la vie d'un homme, peut tirer de la torpeur, du désespoir un homme, une âme, une famille, une église. Combien de réveils sont partis au travers de choses simples. De choses simples. Un peuple peut changer. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux. Nous avons besoin d'avoir un pays qui change, qui se transforme au contact de l'évangile. L'islam gagne du terrain. On ne peut pas le nier. L'adversaire gagne du terrain et nous. J'admire votre salle. Elle est jolie, elle est belle. Je vous envie parce que nous, c'est un combat que je mène, nous, dans les APEB et même dans mon église. Je mène ce combat parce que nous devons avoir des belles salles. Parce que nous devons être accueillants. Nous devons montrer que nous sommes là. C'est important, ces choses. C'est ça, le matériel. Chez nous, il fait beau. Vous pouvez venir chez moi. La porte est ouverte. Vous verrez, tout appartient au Seigneur. Rien ne m'appartient. On a toujours dit, Seigneur, le jour où on aura cette maison, elle t'appartient. Elle n'est pas à moi. Un jour, je partirai. Je la laisserai là. Mais il y a du moderne dedans. Et pourquoi dans l'église, je ne pourrais pas mettre des belles choses pour le Seigneur? Voyez-vous? C'est important, ça. Voyez-vous? Dieu utilise des choses simples. J'ai dit. Vous connaissez l'histoire de Naaman, hein, le lépreux, hein. Naaman le lépreux, général de l'armée de Syrie. On en parle beaucoup de la Syrie, hein. Toujours au centre de l'actualité, hein. Prenez l'Ancien Testament dans le livre des rois. Naaman, c'était un général de l'armée. Quand il passait dans la rue sur son cheval avec son panache sur son casque, tout le monde jetait sa veste, tout le monde le saluait. C'était le grand Naaman. Et un jour, Naaman, sur son miroir en airain poli, parce qu'ils avaient des miroirs en airain qu'ils polissaient, il avait une petite tache sur son visage. Et qu'est-ce qu'il a dit? La lèpre. La lèpre est là. Et alors, la lèpre, chez nous, on n'y pense pas. Hein, ça n'existe plus. En Europe, il y en a encore. Mais à cette époque, à cette période, Naaman, l'homme qui était intouchable, général de l'armée de Syrie, le voilà frappé par la lèpre. Qui vient le trouver? Une petite fille, hein. Une petite fille. Un petit enfant. Ah, sa prière, si bon maître. Moi, je peux imaginer qu'elle a fait comme ça, par amour, cette petite fille juive, qui était en captivité, qui était la servante de Naaman, dans la maison de Naaman. Moi, je peux m'imaginer quand je vois ma petite fille ou mes petits-enfants dire « Ah, si mon maître savait qu'en Israël, il y a un prophète qui peut le guérir. » Naaman, écoutez cet enfant. Aujourd'hui, les enfants, je fais beaucoup de parenthèses, excusez-moi, mais aujourd'hui, les enfants, où c'est l'enfant roi ou c'est l'enfant maltraité. Il est difficile de trouver un juste milieu. C'est admirable. Ce que vous faites pour les enfants, ce qui va se passer pour les enfants. Il faut enseigner l'évangile aux enfants. Il faut. Alors cette petite fille connaissait le Seigneur. Et elle a partagé cela. Et puis, je reviens très courtement sur Jean-Baptiste. Quel a été son discours à Jean-Baptiste? Repentez-vous, car le royaume des dieux est proche. Point. C'est tout. Repentez-vous, le royaume des dieux est proche. Mais le coq, lui, pour revenir à cela, et je termine bientôt. Le coq, il n'a pas fait des longs discours, hein. Il n'a pas fait des longs discours. Mais il a été la trompette de Dieu. Corinthiens parle de la trompette. Hein. 1 Corinthiens 15, 22, 52, pardon. La trompette de Dieu, quand elle sonnera, elle ne rend pas un son confus. Elle sonne juste. J'ai admiré vos musiciens. Ils jouent bien. C'est beau. Mais la trompette de Dieu, elle sonnera juste. Le coq, il a chanté à la seconde près et il a chanté juste. Pas comme dans Astérix, vous avez le coq là, qui se met à chanter au moment où il se met à chanter sur le fumier. Vous avez le Bart qui se met à chanter. Alors le coq, il se dit, qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est pas le cas ici. Non, le coq, il chante juste au moment où Dieu lui a dit de chanter. Mais vous savez, Pierre, comme vous, je pense, vous avez peut-être entendu déjà des milliers de fois, des centaines de fois chanter le coq. Et certainement, vous avez parfois pesté contre le coq. Lorsque vous étiez en vacances, quelque part à la campagne, et que le coq s'est mis à chanter quand vous avez envie de faire la grasse matinée. Mais le coq chante. C'est dans sa nature. Mais le chant du coq ici pour Pierre, il était différent de tous les autres chants de coq. Hein. Il avait un autre son, hein, le chant du coq, ici pour Pierre. Quelle prédication du coq. Hein. Quelle prédication. Hein. Réfléchissez-y toute la vie d'un homme. Toute la vie d'un homme, Pierre, parce que c'est pas n'importe qui quand même, Pierre, l'apôtre du Seigneur. Toute la vie de cet homme, toute la vie de Pierre a été transformée grâce au chant du coq. Grâce au chant du coq, grâce à la fidélité du coq. Si Pierre aurait pu parler, moi je m'imagine ça, mais oh Seigneur, c'est vrai. Si Pierre aurait pu parler, il aurait dit au coq, plus tard, tu sais le jour où tu as le mieux chanté. C'était le matin de Pâques. Pierre aurait peut-être pu dire ça au coq. Le coq aurait peut-être répondu, ben non, j'ai mal chanté, j'ai dû me reprendre à deux fois. J'ai dû me reprendre à deux fois. Et le coq lui aurait peut-être répondu ça. Mais c'est pas toujours quand nous pensons que nous parlons le mieux, que nous prêchons le mieux, que c'est pas toujours dans ces cas-là que nous sommes les plus efficaces. C'est pas vrai, hein. Nous sommes pas le plus efficaces, hein, dans l'œuvre du Seigneur. C'est quand on fait des choses humblement. Humblement. Fidèlement. Surtout aussi, fidèlement. Que cela nous encourage à être fidèles dans les petites choses. D'avoir de la ponctualité, de l'intégrité et de la fidélité pour qu'elles portent du fruit jusque dans l'éternité et à la gloire de Dieu. C'est à la portée de chacun de nous cela. Ne dites pas je suis trop petit. Ne dites pas je suis un enfant. Ne dites pas, je ne sais pas parler. C'est à la portée de chacun de nous. Chacun de nous. Pierre, pour terminer, il avait une trop haute estime de lui. Voyez-vous? Vous avez vu son assurance, hein? Il avait une trop haute estime de lui. Un jour, le pasteur avec qui je me suis converti, en Alsace, nous a expliqué que lors d'une grande campagne d'évangélisation, il y avait un des responsables qui voulait absolument, absolument monter sur la chaire pour présider, pour parler, parce qu'il voulait se montrer. Et il est monté sur la chaire. Et quand il est arrivé sur la chaire, il n'y a plus aucun mot qui pouvait sortir. Et il est redescendu en pleurant. Il aurait mieux fait de monter en pleurant et de redescendre normalement. Voyez-vous? Beaucoup d'humilité, trop d'estime, trop d'assurance. Il a été brisé, Pierre. Mais pour mieux repartir dans sa vie spirituelle. Vous savez ce Pierre-là? Pierre. Celui qui a renié, là. Celui qui a trahi, là. Renié, en tout cas. Il a été transformé. J'en veux pour preuve. Quelques exemples. Plus tard, vous êtes allé étudier l'épître de Pierre, hein, qui parle de la persécution à Rome, hein, sous Néron. Pierre. Alors, plus tard, Pierre, le même homme, celui qui a renié, essayez de faire un petit peu là, hein, c'est Pierre que nous retrouvons dans les actes, hein, plus tard. Vous savez quoi? Pierre, il est à la tête des disciples quand il faut tirer au sort le remplacement de Judas. C'est Pierre qui dirige les disciples. Ce même Pierre qui a trahi. C'est Pierre qui prêche dans Actes 2. 3000 conversions. C'est Pierre. Aujourd'hui, il faut 3000 conversions. 3000 prédications pour une conversion. Là, Pierre prêche une fois et il y a 3000 conversions. C'est Pierre. C'est Pierre qui a une place d'honneur dans le Nouveau Testament, hein, qui reçoit une inspiration du Saint-Esprit pour écrire ses épîtres. C'est Pierre, hein, le même homme qui a trahi. Hein. C'est Pierre qui va mourir crucifié, la tête en bas. C'est ce que l'histoire nous relate. Pierre va mourir crucifié la tête en bas, refusant de mourir comme son sauveur, ne se sentant pas digne de mourir comme lui. Pierre va mourir comme ça. Il va être crucifié, Pierre. Mais il va vouloir être crucifié la tête en bas parce qu'il a dit « Je ne suis pas digne comme mon sauveur ». C'est Pierre. Cet homme qui a renié est devenu un être transformé. Alors, je lis ce texte dans une des épîtres de Pierre, la première de Pierre, au chapitre 5, versets 5, 6 et 7. Chapitre 5, versets 5, 6 et 7. Un Pierre, écoutez bien ce qu'il a écrit. Pierre, ce même Pierre. Et on peut dire qu'il avait eu la leçon, hein. Mais avec amour. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. C'est Pierre qui dit ça, hein. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est Pierre, hein. Pierre transformé, hein. Pierre renouvelé. Pourquoi ? Parce qu'il est passé par la repentance. Alors, je termine avant de prier avec vous, si vous le voulez bien. Je laisse. C'est difficile de retenir toute une prédication pour tout le monde. On retient que 10% peut-être. Mais je vous demande, je vais vous poser trois questions. Vous ne me répondez pas, bien sûr. Vous répondez à vous-même. Dans ce que nous avons pu partager aujourd'hui, ce matin, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Première question. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Deuxième question, qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Et si ça change quelque chose, il y a une troisième question, quand est-ce que tu commences ? Quand est-ce que tu commences ? Je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Oh combien il est bon, Seigneur, d'avoir pu, Seigneur, ouvrir ta parole, la méditer. Merci de ces exemples, Seigneur, que tu nous laisses, qui sont pleins d'enseignements, de sagesse, qui sont pleins de richesses pour ma vie spirituelle, pour nos vies spirituelles. Merci, Seigneur. Parce que ce Pierre-là, tu l'as regardé, Seigneur, rien qu'à ton regard, il a été touché dans son âme, touché dans sa vie. Je te prie, Seigneur, que si ce matin, il y a des âmes qui ne te connaissent pas, eh bien, que tu les attires à toi, Seigneur, que tu les visites. Et pour ceux qui te connaissent, Seigneur, qu'ils ne s'endorment pas, qu'ils restent éveillés, Seigneur. La puissance des ténèbres gagne du terrain dans notre société, Seigneur. Nous ne voulons pas baisser les bras, nous voulons aller de l'avant, nous voulons continuer, Seigneur. Garde-nous, bénis-nous, bénis cette communauté, Seigneur. Je te demande ta bénédiction, Seigneur, sur cette église, sur ses responsables, sur tous ceux qui sont engagés, sur tout le travail qui s'accomplit dans cette ville de Liège, dans cette localité. Seigneur, à toi toute la gloire. Merci pour ta paix, ton amour. Merci parce que tu es puissant. Seigneur, c'est moi qui ne suis pas puissant, Seigneur, parce que je suis parfois dans le doute. Nous sommes dans le doute, nous sommes dans l'incertitude, alors que, Seigneur, aujourd'hui, notre pays, notre Europe a besoin d'un réveil. Seigneur, je n'accepte pas, Seigneur, cette situation. Nous voulons vraiment vivre des choses avec toi, Seigneur, bouleverser notre société, parce que, Seigneur, l'Évangile aura pénétré dans les cœurs. Nous voulons commencer simplement, Seigneur, mais le faire sous ton regard et pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen.